Alors bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer au sujet de la psychologie différentielle et notamment pourquoi cette psychologie différentielle doit être utilisée avec précaution. On va aborder trois étapes pendant cette présentation. La première sera juste une partie de définition de ce qu'est la psychologie différentielle. La seconde consistera à décrire les quelques limites qui composent, qui sont inhérentes à la psychologie différentielle. Et enfin, on décrira quelques abus qui sont déjà connus, disons. Alors, la psychologie différentielle consiste en plusieurs mesures quantitatives qui permettent d'évaluer les performances d'un individu par rapport à celles d'une population. Ces mesures quantitatives, il y en a trois types dans la psychologie différentielle. Tout d'abord, on évalue les modèles mentaux d'apprentissage, ensuite les raisonnements logiques et enfin la personnalité. Pour ce qui est de l'évaluation des modèles mentaux d'apprentissage, en fait, ça consiste à évaluer comment l'individu intègre des informations. On distingue deux fois deux axes. Le premier axe, c'est l'axe synthétique-analytique, à savoir soit la personne est synthétique et dans ce cas-là perçoit les informations plus globalement et s'en fait une image mentale, ou alors elle a une vision plutôt analytique consistant à décortiquer les informations d'un tout pour les assimiler. Sinon, l'autre aspect, c'est l'aspect visuel et verbal, consistant simplement à dire que l'individu apprend mieux soit à travers ce qu'il entend, soit à travers ce qu'il voit. Pour ce qui est des raisonnements logiques, on fait appel à un test très connu, c'est le test de QI, qui consiste non pas à évaluer l'intelligence d'une personne, mais simplement certains types de raisonnements logiques plus ou moins avancés. Enfin, on évalue aussi la personnalité à travers un questionnaire que le participant doit remplir. Ce questionnaire, on l'appelle, il est tiré du Big Five, c'est-à-dire pourquoi Big Five? Parce qu'il y a cinq composantes principales. Les composantes, je les ai notées là, elles sont l'ouverture à l'expérience, le caractère consciencieux, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Et on verra que, notamment en lien avec ce dernier questionnaire, il y a quelques biais à prendre en compte. La psychologie différentielle dispose donc de nombreuses limites que j'ai identifiées au nombre de trois principales. La première, et que je trouve la plus importante, c'est que les questionnaires qu'utilise la psychologie différentielle sont en soi scientifiquement pas totalement fondés. C'est-à-dire qu'ils sont tous établis empiriquement et qu'il n'y a aucune théorie qui les soutienne complètement. Si je prends par exemple le questionnaire tiré du Big Five, ils ont utilisé une approche lexicale de la personnalité en se disant tous les aspects de notre personnalité sont compris nécessairement dans les mots présents dans le dictionnaire. Ils ont donc pris tous les mots dans le dictionnaire et on les ont catégorisés, les ont groupés en cinq catégories que je vous ai données précédemment. Une autre limite, c'est que ces questionnaires sont sociétalement connotés. C'est-à-dire qu'un individu venant d'une autre culture va avoir des biais, puisqu'il connaît pas tous les codes de la culture, et donc ses résultats risquent fort probablement d'être en dessous de ce qu'il serait si il connaissait les codes de la culture. Enfin, les questionnaires de la psychologie différentielle sont dépendants de nombreux facteurs qui sont soit contextuels, soit personnels. Si la personne est dans un environnement bruyant, si elle ne connaît pas la personne qui fait passer le test, c'est autant d'éléments, notamment pour les enfants, qui peuvent perturber la passation et réellement avoir une influence sur les résultats. De même, concernant les aspects personnels, si la personne vient d'avoir un décès ou si elle est dans un contexte personnel plus difficile et que la personne qui fait passer n'en sait rien et ne prend pas en compte il y aura nécessairement des biais concernant les résultats de cette personne. Si on ne tient pas compte de ces limites, on risque de faire face à certains abus. Notamment, un abus principal, c'est la notion de test d'intelligence. En effet, la communauté scientifique s'est pas du tout encore accordée sur la notion d'intelligence, et c'est donc vraiment erroné de parler de test d'intelligence alors qu'on devrait plutôt parler de test de raisonnement logique, par exemple, ce qui est beaucoup plus adéquat. On voit aussi, sinon, l'utilisation des tests de QI pour sélectionner les gens, c'est-à-dire leur permettre d'entrer dans des sociétés comme les International IQ Society ou le Top 1% Society, qui sont en fait simplement des sociétés accueillant des personnes sur la seule base de leur score aux tests de QI. On trouve encore certaines écoles qui nécessitent de passer un test de QI pour y entrer, afin de sélectionner les élèves les plus à même de réussir, ou encore certains jobs qui, pour pouvoir y postuler, nécessitent d'avoir un certain score, un test de QI. Seulement, voilà, un test de QI, ça s'entraîne, et étant donné que c'est du raisonnement logique, à l'aide de simples exercices de drill, ça s'apprend. Et du coup, toutes ces sélections de participants est une mascarade et un détournement de l'usage réel du test de QI. C'est-à-dire qu'un test de QI, normalement, ça sert à orienter une personne. Et normalement, doit être utilisé par un psychologue professionnel qui va prendre en compte toutes les limites qu'on a citées précédemment et du coup éviter les abus qu'on vient de voir. C'est lui qui va pouvoir orienter l'apprenant, parce que souvent on parle d'un apprenant qui passe un test de QI, et qui va l'orienter dans ses études et connaître les difficultés auxquelles il est confronté. Et c'est à ça que sert un test de QI. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!